Bien, bonjour, bonjour à tous. Cette semaine, j'ai eu une discussion avec un collègue, enfin, disons, dans le milieu du travail. Et il me dit il voulait échanger sur un sujet qui était de se séparer d'un collaborateur. C'est un peu compliqué sur le plan technique parce que c'est un alternant. Et puis ça l'embête parce qu'il vient de, le jeune vient de déménager. Voilà, donc il voulait échanger là-dessus. Et c'est des hasards avec un grand D qui font qu'on a des discussions comme ça. Et je trouve que ça s'est produit vendredi. Je repasse au bureau assez tardivement et je déjeune vers 14h15, donc assez tardivement. Et je suis seul dans le réfectoire pour manger. Et puis lui arrive aussi tard, donc j'étais en train de manger. Il me dit « Ah Philippe, je voulais te voir et t'es tout seul. » Donc on a discuté. Et on a pu discuter un peu cœur à cœur aussi. Bon, c'était un peu technique, ça fasse son sujet, mais c'est aussi cœur à cœur. Et puis il me dit, mais j'ai dû faire quelque chose de pas bien, je ne dois pas assez prier en ce moment pour. Parce que voilà, ça fait deux fois qu'il fait des recrutements qui se passent mal, qui ne sont pas bons, qui sont. Voilà. Et je dis, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, et heureusement. Hein. Parce que si juste on avait du mérite quand on fait des choses bien, ce ne serait pas souvent quand même. Hein. Voilà. Et alors je vous raconte ça parce que. On va tourner un peu autour de ces notions-là sur la partie que l'on va regarder de l'Épître aux Colossiens. Et on va commencer par lire le passage qu'on va regarder aujourd'hui. Donc Épître aux Colossiens, à partir du verset 16. Au chapitre 2, pardon, et à partir du verset 16. « Que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune ou de sabbat. » qui sont une ombre des choses à venir. Mais le corps est du Christ. Que personne ne vous frustre du prix du combat, faisant sa volonté propre dans l'humilité et dans le culte des anges, s'ingérant dans les choses qu'il n'a pas vues, enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair, et ne tenant pas ferme le chef, duquel tout le corps, alimenté et bien uni ensemble, par des jointures et des liens, croît de l'accroissement de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ aux éléments du monde, pourquoi, comme si vous étiez encore en vie, dans le monde, établissez-vous des ordonnances, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage, selon les commandements et les enseignements des hommes, qui ont bien une apparence de sagesse en dévotion volontaire et en humilité, en ce qu'elles n'épargnent pas le corps, ne lui rendant pas un certain honneur, mais pour la satisfaction de la chair. Si donc vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, qui est notre vie, sera manifesté, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui en gloire. Et il me semble que l'important dans le passage qu'on va regarder aujourd'hui, c'est on pointe vers ça. Cherchez les choses qui sont en haut. Pensez aux choses qui sont en haut, hein, qui sont répétées. Voilà. Alors je vais proposer une structure des passages que l'on lit aujourd'hui. Joël a refait un historique lors de la dernière étude sur la présentation de Colossiens, et notamment à commenter le passage qui précède celui qu'on a regardé aujourd'hui. Donc il va du chapitre 2, verset 4, au chapitre 2, verset 15. Mais ça vaut le coup de regarder cet ensemble comme un ensemble vraiment depuis le chapitre 2, au verset 4, jusqu'à la fin de ce qu'on va regarder aujourd'hui, donc chapitre 3, verset 4. Et dans la structure, vous remarquez qu'il y a quatre fois « que personne ». Ça a déjà été signalé par Joël. Et deux fois dans la première section, qu'on a regardée dimanche, il y a un mois, et puis deux fois dans la section qu'on va regarder aujourd'hui. Donc deux fois des avertissements sur des dérives que je vais appeler philosophiques, mais qui sont pseudo-doctrinales aussi, et qui notamment sont en rapport avec l'absence de Paul à Colosse, puisqu'il n'est jamais allé, semble-t-il, donc ils ne l'ont jamais vu. Et c'est singulièrement, il va insister sur la déité de Christ et sur le corps de Christ. On va voir dans ce passage, il y a des choses sur le fait d'être caché, d'être présent, d'être corporellement là, mais ce n'est pas les choses importantes. Et singulièrement, pour quelqu'un qui n'a jamais été là physiquement et qui ne les a pas rencontrés. Et donc on voit ce qui répond là. Dans la première section, on a vu ce passage important qui insiste sur la déité de Christ. Et puis, il va dire que notre vie est cachée en Christ. Comme pour dire, je ne suis pas là, mais en fait, ce n'est pas important que vous me voyez. Et donc, il va y avoir ces éléments-là. Et puis, deux allégations là, qui se répondent avec « vous êtes mort, vous êtes ressuscité ». Dans le passage, on a vu que vous avez été ressuscité ensemble par la foi. Et après, nous étions morts dans nos fautes. Et puis, après, il va dire « si vous êtes mort avec Christ, alors il y a des conséquences. Si vous êtes ressuscité avec Christ, alors il y a des conséquences. » Et tout ça se répond pour pointer à la fin, comme on l'a dit, l'espérance ultime. Christ manifesté en gloire, et nous avec lui. Et non seulement Christ qui est manifesté en gloire, mais nous avec lui. Alors on voit se dessiner déjà des choses autour de la primauté de Christ, hein, sur les êtres célestes, sur tout l'univers. Et si on a une vie avec Christ qui est le premier, hein, comme on a vu, bien sûr c'est répété au début, dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, alors il y a des conséquences. Ça veut dire que ça impose certaines choses aussi en termes de vision de Christ et de respect de Christ. Alors je vous propose un plan en quatre points. D'abord, vous donner un petit élément sur un élément de contexte concernant le gnosticisme. Hein, difficile à dire, gnosticisme. Gnosticisme. Bon, on ne va pas jouer avec ça. Et ensuite, trois points, un peu d'attention dans ces passages. Et ces trois points vont concerner l'ombre des choses à venir, les enseignements humains et le prix du combat. Alors, quand j'ai suggéré, ou quand on m'a suggéré de prendre l'étude d'un passage des Colossiens, j'ai dit, moi, je ne sais pas faire ça. Et vous voudrez prendre en compte ce point-là. Dans mon propos aujourd'hui. Moi, je ne sais pas faire une étude d'un livre. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Et donc, on ne va pas forcément suivre l'étude, mais je vais juste ressortir quelques points de cette étude, des points qui me touchent, avec lesquels je vis quelque chose et que je voudrais partager avec vous. Donc, vous m'excuserez si ce n'est pas une étude d'exégèse impeccable. Alors d'abord, l'élément de contexte sur le gnosticisme, du mot gnose, qui est la connaissance, hein. C'est ça. Les spécialistes du grec, enfin, c'est la langue maternelle. Et puis je voudrais d'abord faire une réserve préalable sur ce point-là, c'est que ce courant de pensée n'apparaît très clairement, enfin en tout cas est attesté qu'au cours du IIe siècle. Donc on est à environ 50 ans, plus de 50 ans après l'écriture de l'Épître aux Colossiens. Donc on trouve des traces de façon sûre de ce mouvement de pensée que 50 ans à peu près, entre 50 et 100 ans après donc 50 à 100 ans après l'écriture aux Colossiens, l'Épître aux Colossiens. Mais on a quand même pas mal de choses qui résonnent avec ce qu'on trouve en particulier dans ce passage-là. C'est vrai dans l'ensemble de l'Épître, évidemment, mais dans ce passage-là, on a des choses quand même qui sont assez importantes. Et notamment, sur les points qui étaient les points principaux de l'Épître, de ce mouvement de pensée, qui est que le salut de l'homme repose essentiellement sur une connaissance supérieure de gens initiés qui pourraient recevoir une révélation, et pas forcément sur ouvert à tout le monde. Et donc on voit quelques mentions là-dedans. Et au chapitre 2 et au verset 18, hein, l'apôtre Paul pointe les choses qu'il n'a pas vues. Donc ceux qui prônent notamment le culte des anges et qui sont fiers de choses qu'ils n'ont pas vues. mais qui prétendent avoir une révélation directe. Alors, révélation directe, oui, c'est possible. Mais une révélation directe qui est soumise à la parole et qui rentre dans le cadre de la parole de Dieu. Or là, on a des gens qui construisent une philosophie indépendamment de ce que la révélation divine. Un autre point, c'est le doute sur la création des choses matérielles par Dieu. Et ça, pourquoi ? Parce que ça gêne d'avoir des choses imparfaites qui sont créées par un Dieu soi-disant parfait. Et on retrouve ça un peu dans la philosophie de Platon qui prétend effectivement que si Dieu est parfait, il ne peut pas avoir créé des choses imparfaites. Et quelle est la conséquence de ça ? C'est que l'homme n'est pas responsable de l'imperfection. L'homme n'est pas responsable du fait que ça a été créé mal, avec du mal. Et ça, c'est un moyen pour l'homme de s'exonérer de la responsabilité de la chute. Et donc, il y a un doute aussi sur la bonté de Dieu dans ce mouvement de pensée. Et puis, la contestation de la déité de Christ. C'est-à-dire que Christ est mis au rang des autres puissances célestes. Et étant au rang des autres puissances célestes, d'où la partie qui est aussi culte des anges, puisque de toute façon, l'ensemble de l'adoration se fait pour eux dans l'ensemble des puissances célestes, et donc Christ au même titre que les autres, ni plus ni moins. Donc cette contestation, on va la voir deux fois, la contestation de la déité de Christ, elle est réaffirmée au chapitre 2, verset 9, et avec la pleine autorité de Christ, est réaffirmée au chapitre 2, verset 10 également, hein, pour regarder, pour affirmer que Christ a une primauté dans les lieux célestes. Mais non seulement une primauté, et ça rejoint le dernier point, c'est que les choses matérielles ne comptent pas dans ce mouvement de pensée, et seules comptent les choses spirituelles. Et dans une phrase assez concise, l'apôtre nous dit que Christ, et en Christ, la déité a habité corporellement. Et donc, réunit à la fois le corps et l'esprit. Si on n'y arrive pas, on va peut-être laisser tomber. Hein. Si on réunit le corps et l'esprit dans un tout qui se révèle. Et donc, on a quand même pas mal d'éléments qui pointent dans tous ces passages des contestations de cette philosophie. Alors, on verra peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, on peut trouver des traces, et il y a des traces documentées de continuité sur le gnosticisme. Et quand on dit, par exemple, qu'il y a une révélation des seuls initiés, je ne sais pas si ça vous fait penser à des choses, mais on a tout un courant de pensée aujourd'hui qui estime savoir ce qui est caché, ayant eu des informations que tout le monde n'a pas. Et parce qu'on a des informations qu'on nous cache, qu'on ne dit pas. Mais moi, j'ai eu cette révélation-là. Je ne sais pas si ça vous fait penser à des courants de pensée qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Okay. Voilà. Alors, donc il y a beaucoup de traces. Alors, j'en cite une là, mais il y a beaucoup de traces de ces mouvements de pensée qui existent depuis, donc documentés depuis le deuxième siècle. Je vais passer au point qu'on trouve dans les trois points que j'ai mentionnés. Et le premier concerne l'ombre des choses à venir. Alors quand on dit l'ombre des choses à venir, l'ombre des choses, vous connaissez ce type de schéma, il faut faire attention de où on regarde et comment on regarde. Hein. Parce qu'on peut aussi avoir des ombres qui donnent des fausses images de la réalité. En tout cas, dans tous les cas, l'ombre des choses à venir, l'ombre n'est jamais la totalité du sujet. Qui est mis en lumière. Et donc, un premier point, c'est de remarquer que dans tout ce texte, il y a ce que j'ai appelé une dialectique délicieuse. L'apôtre nous dit qu'il faut se réaliser mort avec Christ pour vivre en ressuscité. Voir les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Après, on a quelque chose autour de l'orgueil des pensées de la chair et la réalité du corps de Christ. On a des choses qui se répondent tout le long de ces passages-là en particulier. On a l'ombre des choses à venir, mais les choses qu'il n'a pas vues, et notre vie est cachée. Donc on a à la fois l'ombre, les choses qu'on ne voit pas, et notre vie est cachée. Et donc il y a toute une dialectique là-dessus que l'apôtre va développer. Pour insister sur, à la fin, pour finir sur la manifestation de la gloire de Christ. Parce que la chose sûre, la chose ferme que l'on doit tenir, La chose qui est importante, c'est la fin de ce passage avec la manifestation de la gloire de Christ. Ça, c'est une encre ferme. Et elle ne sera pas... Aujourd'hui, effectivement, elle est voilée. On n'en voit que l'ombre. Mais demain, on la verra pleinement. Et ça, c'est certain. Et tout genou se ploiera. On ne pourra pas dire « Non, non, mais ça, c'est pas vrai. Hein? » Ou « C'est pas l'important. » Non, cette gloire s'imposera à tous. Et c'est vers ça que tout ce passage tend, parce que la réalité vers laquelle nos yeux doivent être tournés, c'est cette chose réelle qui va arriver, la manifestation de la gloire de Christ. Et on verra que, je le répéterai encore, mais nous avec lui, nous qui avons cru avec lui. Alors on a une ancienne là qui revient, donc j'ai dit quatre fois, que personne ne vous juge. Alors que personne ne vous juge, c'est un message de liberté, hein. C'est pas une obligation ou des interdictions, mais c'est vraiment une recherche de la relation avec Dieu et des vraies motivations. Effectivement, dans la loi, on avait des préceptes et Brodice nous le dit que c'est l'ombre des choses à venir, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire en termes de nourriture, en termes de rituels. Et Jacques va nous dire « Qui es-tu, toi qui juges aussi ?» Alors on a beaucoup de choses qui sont bien à leur place aussi. Fondamentalement, les choses ne sont pas forcément mauvaises en soi. Hein. On parle des obligations de manger, de ce qu'on peut boire ou de ce qu'on ne peut pas manger ou pas. On va voir dans cette lignée la place du jeûne. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ? Le Seigneur dit aux pharisiens qu'ils le font pour bien se montrer. Hein, qu'on voit qu'ils jeûnent, là, que c'est compliqué, qu'ils sont... Mais en fait, si on a des temps de consécration, si on a un temps mis à part pour Dieu, alors c'est quelque chose de bénéfique. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, ça, mais pratiquez-le. C'est chouette. On a été un peu surpris avec Flo quand on a voyagé pour Portes Ouvertes. Ils nous ont suggéré ça. De jeûner pendant la semaine avant le voyage. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas bien fait jusqu'à présent, et on le fait. Alors jeûner, c'est pas ne pas manger pendant 10 jours, hein, parce que c'est pas là aussi, c'est pas se mettre malade, parce que c'est juste dire ce que on a un corps et un esprit, et ce midi, on va nourrir notre âme et notre esprit plutôt que notre corps. Donc juste mettre ce temps à part pour Dieu et être en relation avec Dieu. Alors, c'est ça le jeûne, même si le passage dans la parole nous dit que c'est pas que ça le jeûne, évidemment, mais c'est ça aussi. On parle de mettre à part un jour dans ce texte-là. Quelqu'un met à part un jour et pas l'autre. Hein, on pense à Noël, contester. Est-ce qu'on fête Noël ? Non, on ne fête pas Noël, parce que ce n'est pas vraiment la naissance du Christ. C'est une fête commerciale, et c'est quelque chose qui n'est pas dans la parole. Oui, mais si je saisis cette occasion pour me souvenir de ce que le Seigneur est venu sur la croix, sur la terre, et s'est donné et incarné dans un petit enfant, qu'on matérialise ou pas, mais qu'il s'est incarné dans un petit enfant. Si c'est ça mon Noël, alors je prends la racine de Noël. C'est Emmanuel avec nous, c'est ça, un enfant nous aimé. Et le réaliser. Alors oui, ça peut devenir quelque chose, un temps qu'on met à part. Le sabbat, qui est mentionné aussi. Est-ce que le sabbat est juste le samedi, et puis surtout, je fais rien du tout, je n'allume même pas la lumière, je fais rien, mais je m'arrange pour que la lumière soit allumée la veille et la laisser toute la nuit. Parce que c'est ça que dans certaines maisons, on a beaucoup de maisons comme ça autour de nous hier. Voilà, la lumière est allumée depuis le vendredi soir jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche matin, quasiment. Oui, ça peut être ça, s'il y a quelque chose dans le cœur en plus. Si c'est que ne pas toucher l'interrupteur, c'est pas génial non plus. Mais s'il y a quelque chose dans le cœur, s'il y a un jour consacré, s'il y a un jour mis à part pour Dieu, et nous sommes invités à mettre à part le dimanche, pourquoi plus le dimanche que le samedi ? Parce que c'est la résurrection. Parce qu'on se souvient de ce qu'a fait le Seigneur, parce qu'il est ressuscité à ce moment-là. Et nous avons, hein, l'apôtre nous invite à vivre en ressuscité. Et donc, suivre Christ dans sa résurrection, et nous souvenir ce moment-là qu'il est ressuscité. Oui, on se souvient effectivement le dimanche qu'il est mort, et on l'a encore rappelé par ces signes tout à l'heure, mais on se souvient qu'il est ressuscité, et nous sommes ressuscités avec lui. Alors si on met à part ce jour-là, ça a du sens. Et c'est pas uniquement ne pas prendre sa voiture ou ne rien faire du tout, mais c'est consacrer ce jour-là spécialement pour Dieu. Alors ça a du sens. Quand j'étais jeune, j'ai essayé de tenir, mais avec la faiblesse qui me caractérise tout le temps, de ne pas travailler le dimanche. Alors, ça m'arrange parce que comme je suis un peu feignant, c'est une bonne excuse aussi. Hein. Mais c'est compliqué aussi. Se dire, eh ben, je vais mettre à part quand on fait des études et qu'il y a des moments où ça chauffe un peu, hein, eh ben, c'est compliqué. Mais ça vaut le coup de le tenter. Alors bien sûr, j'ai beaucoup de fois chuté, et j'ai chuté même en tant que professionnel, alors qu'il n'y avait pas forcément d'obligation. Mais ça vaut le coup de se dire de temps en temps, je mets un temps pour Dieu à côté. C'est bien si on le fait aussi tous les jours, hein. Si on est mettre du temps pour Dieu de côté, c'est bien si on le fait tous les jours, mais ça vaut le coup de le tenter, de mettre des temps à part pour Dieu. Et alors, quand on entend que personne ne vous juge, qui revient 4 fois quand même dans ce texte, hein, on entend aussi l'inverse. Hein. Parce que personne, c'est nous, le personne. Hein. Donc ça veut dire que ne jugez pas, ne jugez personne. Il y a vraiment la contrepartie que personne ne nous juge, ne jugez pas. J'ai cité ce verset de Jacques, hein, qui es-tu toi qui juge, mais aussi peut-être faire attention à ne pas imposer aux autres une nouvelle liberté que l'on a trouvée. Ça, c'est une grande tendance. C'est-à-dire qu'on a une liberté par rapport à quelque chose et on va l'imposer aux autres comme une nouvelle contrainte. Parce qu'on va juger que ça, c'est génial. Et ce que je viens de vous dire, que j'ai expérimenté sur le dimanche mis à part, quand j'étais jeune, si je dis à un jeune, tu devrais faire ça. Où est la liberté? Et à un jeune ou à nos enfants. Hein. En revanche, lui faire comprendre que c'est, lui faire partager la joie que c'est, alors peut-être, mais pas l'imposer. Et parce qu'il ne le fait pas, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce qu'il a pris du retard. Voilà. On a tendance hein, beaucoup à imposer aux autres notre nouvelle liberté. Juste quelque chose qui est de l'ordre de l'épiphénomène et du détail, mais c'était symptomatique et ça m'a fait sourire. Nous sommes à Antony depuis pas mal de temps maintenant. Et la première fois que je viens à Antony, qu'on arrive à Antony, je suis en costard-cravate, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Maintenant, je mets beaucoup moins de cravate que... Mais j'étais en cravate. Et il y a un jeune que je connais très bien, que je connaissais tout gamin, qui vient me voir et qui me dit « Philippe, tu sais, ici, la cravate, c'est pas obligatoire. Tu peux l'enlever. » Ouais. Ouais, je peux l'enlever. Mais tu me laisses décider si je peux l'enlever. Parce que tu vas pas m'imposer une nouvelle règle de ne pas mettre de cravate ici. Alors c'est un épiphénomène, mais c'est mineur comme truc, et puis voilà, c'était assez rigolo. Mais je trouve que souvent on le fait pour des choses beaucoup plus importantes. On a tendance à faire ça pour des choses un peu plus importantes que simplement un port de cravate. Deuxième point, sur les enseignements humains. Je ne sais pas si vous savez ce que j'ai voulu... signifié par ça, mais on est comparé dans la parole souvent à des brebis, et le Seigneur nous appelle comme ces brebis. Vous connaissez les caractéristiques des brebis? C'est un des mammifères les plus bêtes. C'est extrêmement grégaire. Il y en a une qui part, les autres partent. Ça va dans la falaise et c'est pas grave. Hein. Ça suit, hein. On est des moutons. On aimerait bien être des brebis, mais en fait, on est des moutons. Donc, voilà, juste sur ce point, sur les enseignements humains. Il y a des mentions qui sont avec quelques caractéristiques dans ce passage. Les caractéristiques que l'on a, c'est une inversion des valeurs, une incompréhension des plans de Dieu. Et quand l'apôtre Paul va mentionner cette vie en ressuscité, le fait qu'on est mort, mais qu'on fait quand même des choses importantes pour nos corps, qu'on se glorifie de mortifier le corps, et tout en rejetant l'importance du corps. Voilà, ça, c'est des inversions de valeurs que l'apôtre Paul démonte. Des instructions impératives. Hein ? Ne pas manger, ne pas boire, ne pas faire, se garder de ça, se garder de ci. C'est des choses impératives. Une apparence de sagesse. Il mentionne ce qui est très bien. C'est bien. Et notamment parce que ça ne glorifie pas le corps, ça ne prend pas soin du corps. Donc, y compris dans le mépris du corps, c'est une apparence de sagesse. Et en fait, il combat une satisfaction de la chair. Ça vous rappelle rien, ça ? Ces caractéristiques ? On a un paquet de caractéristiques, de choses qui traînent en ce moment, mais pas que en ce moment, qui traînent dans nos vies, dans nos impératifs, et qui ont ces caractéristiques-là. Je vais prendre quelques exemples, dont certains, je ne suis pas censé pouvoir exprimer ça en public. Mais bon. L'égalité homme-femme, c'est super. Sauf que la parole ne dit pas égalité. Elle ne dit pas égalité. Elle dit complémentarité. Et à quoi ça nous mène, l'égalité homme-femme ? Ça nous mène à l'indifférenciation. Je ne sais pas si vous écoutez France Inter de temps en temps, il y a une personne sur France Inter entre 18 et 19, je ne sais plus, je l'entends de temps en temps quand je suis en voiture là, qui est Julia Foyce, et qui dit « On ne naît pas homme ou femme, on le devient ». Et c'est un bout d'émission qui s'appelle « Pas son genre ». Alors, on ne naît pas homme ou femme, on le devient. Alors, que l'éducation forme des façons de penser, que l'éducation oriente des comportements, oui, mais dire « on ne naît pas homme ou femme », la parole nous dit « il les créa mâle et femelle, il les créa homme et femme ». Je ne peux pas entendre qu'on ne naît pas homme ou femme. La parole nous dit qu'il y a cette différenciation. Voilà. Alors, je ne parle pas, quand je fustige l'égalité, je ne parle pas de l'égalité nécessaire en traitement, pour le monde de l'entreprise, en salaire, en évolution, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle de quand on va sur l'égalité qui est une indifférenciation complète. Alors, on a des instructions impératives. Une apparence de sagesse. Tout le monde est égal. C'est génial. Ça, c'est sage. Hein ? Mais en fait, on a quelque chose qui est déconnecté de la parole. Et pas beaucoup, hein. C'est un peu ça le danger de quelques nouvelles philosophies. C'est que c'est pas complètement faux par rapport à la parole. La parole, et toute la parole, et l'apôtre Paul aussi, que on peut traiter de misogyne, conduit à essayer de marcher vers l'égalité. Réintroduit les femmes. Et le Seigneur, le premier, dans son ministère, a réintroduit la femme dans le fonctionnement de la société. Hein ? Il l'introduit et il pose des choses fortes auprès d'une femme, par exemple, au Puy de Sichard. Et alors, tout ça a une apparence de sagesse. Quand on le pousse, mais on le dévie de ce que la parole donne pour en faire une apparence de sagesse. Je peux citer d'autres choses. Évidemment, ce qui entraîne, c'est la liberté de disposer de son corps, hein, avec les dérives libertaires, la transformation de son corps, de rejeter ce que Dieu nous a donné. Je peux citer aussi le respect du règne animal. Bien, le respect du règne animal. Évidemment. Sauf que quand on va jusqu'à l'antispécisme, avec la violence qui s'attache aussi, alors on déroge, parce que Dieu nous donne comme instruction de gérer et de se servir de la création qu'il a mis pour nous. Voilà. Et donc là aussi, on a des instructions impératives, des inversions de valeurs, des incompréhensions du plan de Dieu. Ces éléments poussés fortement sont des nouvelles religions, avec leurs propres extrémistes. Et c'est des éléments qu'on a du mal à contester aussi avec la parole tout en restant sage et en opposant la sagesse de Dieu à la sagesse des hommes. Il faut être délicat avec ça. Parce que je le répète, tout ça part de choses très très proches de la parole. Bien sûr que nous avons à respecter la création et à respecter le monde animal, évidemment. Et que nous n'avons pas à assumer de cruauté, évidemment. Et donc la limite pour nous, elle est difficile à tenir. Et dans nos discours, dans nos discours avec l'entourage, avec nos amis, et en particulier les incroyants, il faut faire attention. Parce que la Bible ne dit pas de massacrer les animaux. Évidemment pas. Mais elle nous dit d'utiliser la création. Alors on va voir... J'étais là-dessus, plutôt. On va voir un peu plus loin une contradiction, quand même. À la suite de notre passage, au verset 5 du chapitre 3, on va trouver « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre ». Et puis une suite de choses qui paraissent contraintes. Mais ça veut dire quoi, ça? Alors je ne vais pas empiéter sur le commentaire du texte suivant, mais juste pour revenir sur le nôtre, en disant que tout ce qui est dit là, c'est juste pour que nous ayons une compréhension qui nous mette en relation avec Dieu. C'est-à-dire que le rejet et la liberté que nous avons en Christ, ça n'est pas « je fais ce que je veux comme je veux ». Et tout ce que je fais, parce que je suis libre, je peux le faire. Non, c'est juste que Dieu veut une vraie relation avec nous. Et qu'il y a des choses qu'on va faire par amour et non plus par obligation. Dernier point, le prix du combat. Alors, sur ce thème, je vais regarder pour maintenant et pour bientôt. Bien sûr, le prix du combat, quelle est cette expression qui est utilisée et qui nous dit de ne pas être frustré du prix du combat. Bon, l'apôtre fait référence souvent à un combat, à celui qui court dans la lice, hein, aux compétiteurs qui vont avoir un prix. Et quel est notre prix? Parce que le texte nous dit ne pas être frustré maintenant. Ce n'est pas uniquement le prix, uniquement comme l'apôtre Paul l'expression de l'appel céleste. Oui, mais ce n'est pas pour demain. Il y a aussi un prix pour demain, et on va le voir tout à l'heure, mais il y a un prix pour aujourd'hui. Et il me semble que le prix pour aujourd'hui, c'est de bien réaliser que Christ est le chef, notre chef aujourd'hui, et qu'on vit dans un corps dont il est la tête. Et vivre dans ce corps-là, vivre dans cette unité, dans ce lien... qui est alimenté par le Seigneur Jésus, nous dit le texte, seule source de nos actions. Mais c'est aussi un corps qui doit être, qui joue ensemble, qui fonctionne ensemble, avec un ordre, évidemment. Le fonctionnement doit être ordonné, et un fonctionnement pour l'intérêt de tous les membres. J'avais déjà pris ici cet exemple, mais quand vous plantez un clou, et que, parce qu'on est tous assez maladroits, bing, vous tapez sur la main, c'est-à-dire à côté du clou. Il n'y a pas la main gauche qui s'est fait taper, parce que moi je suis droitier, donc je tape avec la main droite, hein, quand même. Sinon, il y a grande chance que ce soit pire. Si je tape sur ma main gauche, je n'ai pas la main gauche qui va taper la main droite. Hein. Je n'ai pas la main gauche qui va prendre la main droite et lui faire sa peau. Hein. J'ai plutôt la main droite... qui va lâcher le marteau et qui va aller s'occuper de la main gauche. Autrement dit, il y a quelque chose de fluide dans le corps. Et nous, on a la possibilité de vivre ça dans le corps de Christ. En église locale prioritairement, mais aussi plus largement. Alors c'est ça, ce lien fort dont parle le texte. Hein. Je parle du verset 19, hein. Duquel tout le corps alimenté est bien uni ensemble par des jointures, des liens croient de l'accroissement de Dieu. C'est ce lien fort qu'il y a entre chacun. Et un corps avec chacun sa fonction. Benoît nous a rappelé les fonctions dans un orchestre, c'était la semaine dernière. Mais c'est aussi dans un corps, chacun a sa fonction. Et quand vous vous faites mal à la jambe ou au pied, vous ne laissez pas votre pied traîner derrière en disant « Ouais, je viens de te chercher, tu me ralentis, là, je viendrai te chercher demain. » Ben non. Vous faites avec, et vous allez attendre, et vous allez marcher à son pas, et pas plus vite. Voilà ce que nous avons, et ça, c'est fait partie du prix du combat. Alors pourquoi un combat ? Parce que c'est pas naturel. Parce que c'est pas naturel d'agir comme ça. De se mettre au diapason du plus faible. De se mettre systématiquement en soin pour ceux qui en ont besoin. Pour reconnaître que j'ai fait mal. La main droite, elle va lâcher le marteau et elle va aller s'occuper. C'est moi qui ai fait mal. Donc c'est à moi de m'en occuper aussi. Ça, c'est un combat. Parce que naturellement, c'est pas ça qu'on ferait. Nous, il faut tracer, hein. S'il y en a un faible, ben ok, on viendra te chercher quand on sera revenu, quand on reviendra. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça nous demande un effort. Ça nous demande un effort et c'est un combat pour maintenant. Mais c'est un combat où il y a un prix extraordinaire. Ça vaut le coup. Parce qu'il y a ce prix d'unité, de soutien. Parce que demain, c'est la main gauche qui donnera du soin à la main droite. Et, ça va se répondre. Alors pour bientôt, c'est l'espérance. C'est l'espérance d'être avec Christ, en gloire. C'est l'espérance aussi de voir Christ et d'être avec lui. Et là, on est invité à voir Christ. On est invité aussi à avoir notre vie cachée en Christ. C'est assez étonnant, ça. Et on est invité à être plus que vainqueur. La parole nous dit plus que vainqueur. On l'a mentionné il y a quelques semaines, là. J'avais entendu quelqu'un donner une explication sur plus que vainqueur. Vous savez ce que c'est, hein ? Vous allez participer à un petit combat de boxe, et il y a 100 000 euros à gagner. Et ping, ping, vous en prenez plein la tête, mais à la fin, c'est vous qui mettez KO. 100 000 euros, vous êtes vainqueur. Ok. Donc vous prenez les 100 000 euros, vous rentrez à la maison et vous dites « Chérie, j'ai 100 000 euros. » Elle est plus que vainqueur. Parce qu'elle n'a pas mené le combat. Le combat, c'est ce combat-là. C'est Christ qui l'a mené. Et nous avons cette assurance parce que Christ a mené le combat, parce qu'il est ressuscité. Et nous sommes invités à vivre en ressuscité. Ça veut dire quoi, ça ? Vivre en ressuscité, ça veut dire qu'on va vivre comme si on était déjà avec Christ en gloire. C'est pas facile, ça. Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas vraiment hein, dans nos petits ennuis quotidiens. On ne voit pas vraiment ça. Hein. Dans nos tracasseries administratives ou autres, c'est pas vraiment la grande gloire de Christ qui est là présente. Oui, mais... Si nous remettons les choses comme l'apôtre Paul nous y invite juste avant la manifestation, c'est-à-dire de voir les choses qui sont en haut et non pas celles qui sont sur la terre, alors nous avons les yeux fixés sur ce qui est important pour l'éternité, la gloire de Christ et notre vie avec lui. En ce qu'elle est cachée, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas forcément que nous, on vive avec Christ. Mais c'est une réalité. Et donc faire l'acquis dès maintenant de notre position future, alors ça nous permet de prendre un peu de distance. Parfois, la distance est difficile aussi à prendre quand dans nos corps, dans nos esprits, on sent la pression et la difficulté. Quand la maladie est là, quand l'esprit est pris par des choses matérielles, par des choses de la terre, alors c'est difficile. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut réaliser ça encore plus fort. Que notre vie est cachée en Christ. Que notre vie sur la terre peut, même dans les difficultés, être un témoignage aussi. Alors si on réalise que notre vie, même dans les difficultés, peut être un témoignage, là on vit en ressuscité. C'est-à-dire qu'on vit déconnecté du mal qui est subi. Sans le nier. Ça n'enlèvera pas la douleur. Ça n'enlèvera pas la difficulté psychique, peut-être. Ça n'enlèvera pas les batailles que l'on a avec soi et avec les autres. Mais on peut déjà vivre en ressuscité. La promesse que nous avons, elle est certaine. Et je vais finir en faisant référence à un chant qui est devenu viral sur... on a entendu sur TikTok, là. Alors, si on réalise ça, comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Que cette vision de l'éternité avec Christ nous habite. Et je vous invite à ce qu'elle transcende les soucis quotidiens que l'on a tous, hein, pour nous remplir de joie, d'espérance, toute cette semaine. Merci.